Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à Catherine Deschamps, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Gérard Carrérou.
Bonjour.
Bonjour. Un grand merci à vous tous, chers auditeurs. Vous êtes 228 000 de plus à nous écouter tous les samedis et donc plus de 605 000 à chaque épisode des Grandes Voix. Merci beaucoup de votre fidélité. Au sommaire, sauf qui peut, Emmanuel Macron se serait bien passé de ça. Une crise de l'école par-dessus la crise sanitaire. Le sandwich jambon et fromage passe mal à 80 jours de la présidentielle. Les profs et les parents d'élèves dans la rue en mode ras-le-bol, double dose et même triple quand on apprend que le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a alpagué son collègue Covidé Véran pour ne pas l'avoir plus soutenu. Une fois de plus, Macron a dû jouer les pompiers de service, distribution de masques, tarifs plafonnés de l'électricité, propulsant même sa femme pour défendre son bilan. Emmanuel parle très cash, a tenté d'apaiser la première dame. Alors le président est-il à jamais un incompris ou alors irrévérence qui finira par lui coûter cher? Et si finalement la bonne nouvelle ne venait pas du Covid, si l'Institut Pasteur est inquiet pour l'hôpital, il l'est moins pour le variant du moment. Omicron pourrait atteindre son pic de contagiosité d'ici la fin du mois et donc laisser place à une sorte d'immunité collective, reléguant le virus en maladie saisonnière comme la grippe, écartant de facto l'hypothèse d'une nouvelle dose de rappel. Là aussi, quel impact sur la campagne présidentielle? À gauche comme à droite, on rentre dans une sale guerre et quelques esprits éclairés espèrent qu'elle ne sera pas fratricide. Après la déshérence de Guillaume Pelletier, c'est bouclier ouvert entre LR et le camp Zemmour. C'est à se demander si Pelletier n'avait pas raison de prophétiser sur Europe 1 le ralliement de plusieurs LR vers Reconquête. Pendant ce temps à gauche, Christiane Taubira est bien candidate à la primaire et elle risque peut-être de la gagner, ce qui désingrait Montebourg et Hidalgo. Faut-il s'attendre à une campagne présidentielle sans la gauche? Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. Comme le disait Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Alors si la crise sanitaire ne suffisait pas, il a fallu une crise de l'école arrivant de facto avec le Covid, test à jour 0, à plus 2, à plus 4, puis finalement assoupli, file d'attente en labo, en pharmacie, pénurie d'autotests pourtant promis, tout le monde perd ses nerfs. Profs et parents d'élèves en cortège jeudi, avec un Mélenchon traitant Blanquer de bon à rien et le ministre de l'Éducation lui-même accrochant vivement son collègue Véran avant le Conseil des ministres. Tout cela fait un peu désordre à 85 jours de la présidentielle.
Oui, ça fait un peu désordre. Ça fait un peu désordre et c'est surtout quelque chose qui ennuie le chef de l'État pour la raison suivante. Je vous disais la semaine dernière, je ne vais pas le répéter dans le détail, que tout était de sa part, la stratégie était 1, le Covid, 2, le Covid, 3, le Covid. C'est un peu comme pour le cochon, vous avez dit, tout est bon dans le cochon, et je dirais dans le Covid, tout est bon pour gagner l'élection. Bon. Et tout ce qui vient se mettre quelque part comme un caillou dans la chaussure pour empêcher que cette stratégie se développe sur les 3 mois qui viennent et qui permettent au chef de l'État sortant d'être réélu, et évidemment, il faut tout de suite intervenir. Comme les pompiers, la brigade d'urgence intervient. C'est le cas pour les enseignants. Vous avez vu quand même avec laquelle rapidité, après la grève, qui a été suivie, très suivie, le Premier ministre, le ministre, tout le monde, hop, on est monté avec le carnet de chèques, avec les 5 millions de masques FFP2, avec les 8 000 embauches, etc. Et je dirais, il y a d'autres cas. Je cite celui-là parce que c'est celui que vous m'avez soumis, mais je pourrais dire, regardez l'électricité. Mmh. Tout d'un coup, incroyable, on a effectivement, oui, mais on a effectivement, je m'arrête là, Michel, sois rassuré, mais je veux le dire simplement que tout ce qui se met dans le travers de la stratégie Covid and Covid and Covid, c'est bon pour, effectivement pour intervenir tout de suite.
Eh bien, Michel Cotta, puisque été interpellé.
Moi, je ne crois pas à la stratégie Covid et Covid en se disant que c'est un argument absolument, mais je l'avais dit d'ailleurs, c'est un argument formidable, mais c'est un argument qui peut se retourner. Et on voit à tout moment que c'est un argument qui peut se retourner, la preuve. La preuve, c'est que je pense quand même que, grosso modo, Macron se serait bien passé de cette pandémie. Alors, est-ce que le mouvement des professeurs... Au fond, la première réaction qu'on a eue tous devant le mouvement des professeurs, c'est peut-être pas eux en ce moment, quand on voit les hôpitaux, etc., se mettre en quatre, c'est peut-être pas eux... Mais il faut dire que c'est horriblement compliqué, quand même, quand on a vu...
Le protocole.
Le protocole, d'abord, il change tout le temps. Je conçois qu'il change quand on passe de 3 000, de 20 000 infections à 300 000. Hein, je veux dire, je comprends qu'il change. Mais enfin, c'est vrai que pour les gens, pour personne, ça n'est agréable. Et c'est encore moins agréable pour les politiques qui ont manœuvré ça. Et Blanquer s'en est bien aperçu. Il n'a plus que 3 mois devant lui avant l'élection, évidemment. Mais d'une certaine façon, on peut dire heureusement.
Catherine Ney.
Moi, je trouve qu'évidemment, le président le Covid sert le président à anesthésier le reste du pays. Mais c'est vrai, dès qu'un problème peut se présenter, aussitôt on colmate. Hein, l'essence augmente, hop, vite, un chèque de 100 euros. Là, l'électricité qui augmente, vite, on est en train de tuer EDF en lui imposant cette augmentation réduite à 4%, alors qu'elle aurait dû, normalement, augmenter de 44%, ce qui est évidemment
important. Oui, 35, disait Bruno Le Maire. Voilà. Oui.
Mais ce qui est terrible, vous voyez, que moi, ça ne me choque pas, après tout, qu'après la crise, la journée de grève des enseignants, des parents, qui d'ailleurs ne veulent pas tous la même chose, hein, les enseignants, ils voudraient plutôt qu'on ferme les écoles et les parents, pas du tout. Il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Mais là, qu'on engage, qu'on commande 5 millions de masques, quelques 3 000 contractuels soient recrutés, ce n'est pas ça qui me choque. Moi, ce qui me choque, et je regrette de le dire, c'est que dans l'accusation que l'on fait à Blanquer, et bon, qui est un bon ministre, qui a essayé de lancer cette réforme du lycée, et puis le bac, bon, et qui va, et en ce moment, évidemment, avec le Covid, ça freine tout. Moi, je pense qu'il est lâché par Macron sur deux choses qui m'ennuient. C'est qu'à la fois, Blanquer dit qu'il faut retrouver pour l'autorité des professeurs. Et lui, il a dit non, il s'agit de redonner du sens à la profession d'enseignant. Ce n'est pas la même chose. En tous les cas, il critique son ministre. Mais surtout, alors que Jean-Michel Blanquer avait fustigé la gangrène de l'islamo-gauchisme qui règne dans l'université, qui est un vrai problème, et on en a parlé aujourd'hui, eh bien lui, Macron dit aujourd'hui, à ses yeux, il revient aux universités d'éclairer le monde tel qu'il est. De défendre nos universités, c'est défendre une autorité scientifique et académique sans laquelle il n'y a ni savoir ni transmission de savoir. Alors qu'il y a, en juin 2020, contre les sciences sociales, qu'il avait rendu coupable d'avoir cassé la France en deux en encourageant l'ethnisation de la question sociale. Donc il est revenu sur sa propre position pour dire « alors pas d'histoire avec les universités ». Pas d'histoire avec les professeurs. Et ça, c'est un renoncement idéologique que je trouve très grave. Beaucoup plus grave que de donner de l'argent. Voilà.
Charles Villeneuve.
Oui, moi, je constate, si vous voulez, que tout ce qui rogne le pouvoir d'achat et entrave la vie des familles, l'école et la santé, ont recentré en une semaine l'actualité sur les questions sociales. Et les questions sociales, le président de la République les craint, manifestement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sa phrase, je ne sais pas si elle est devenue culte, « emmerder les non-vaccinés », finalement, avait imposé un seul thème de débat. En cela, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Gérard. C'est-à-dire que tout tournait autour du sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'il voulait que tout tourne autour du sanitaire. Mais évidemment, l'opinion publique, les électeurs, sont préoccupés uniquement. Et nous le sommes d'ailleurs. Ouais. Aussi, autour de cette table, par finalement ce Omicron aujourd'hui, Delta hier, maintenant c'est Delta-cron, enfin on ne sait pas si ça peut arriver, etc. etc. Et d'ailleurs, ce contre-pied, ça a pris à contre-pied toute la meute gouvernementale, qui a trouvé un bouc émissaire au sein même du gouvernement, d'ailleurs. C'est Blanquer, Jean-Michel Blanquer, et c'est la raison pour laquelle vous avez souligner tout à l'heure l'altercation, en quelque sorte, avant le Conseil des ministres, entre le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Santé. Trop facile de tomber sur son rable, parce que finalement, Pécresse avait raison. Il fallait plutôt alléger, réfléchir à la procédure des tests et faciliter ces tests. Vous savez, les gosses, moi je vais juste finir en vous racontant une scène. Comme beaucoup, évidemment, on a amené nos petits-enfants ou nos enfants à la pharmacie lundi matin dernier. Il y avait la queue incroyable avec tous les gosses de 7 à 10 ans, etc. Et les pharmaciens, deux pharmaciens qui étaient dehors et qui traitaient les enfants, qui essayaient de les convaincre de toute façon de mettre dans leur nez les couvillons jusqu'à finalement la paroi nasale. Les gosses pleuraient. Eh bien, les deux pharmaciens se sont mis à pleurer à la fin. Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et ça, c'était quoi ? La mauvaise préparation, le mauvais calcul de précipiter les tests et de mettre tous les gosses, de toute façon, à l'esprit noir de ces tests-là. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, fissa, comme on dit, c'est-à-dire rapidement, il a fallu distribuer d'abord au syndicat des enseignants un certain nombre de cadeaux qu'on leur refusait depuis je ne sais combien de temps, hein, et puis modifier complètement la procédure nasopharyngée.
Alors, on va marquer une pause et on revient juste après avec les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Les grandes voix d'Europe 1 que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter tous les samedis. Et on vous en remercie, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Sauver le soldat Blanquer, c'est la mission des grandes voix ce matin, Michel Cotta.
Non, je ne suis pas sûr que ce soit précisément. Ce que je veux dire,
non, c'est
que
vrai qu'il est pointé
ça ne
du
date
doigt.
Pas d'hier, ouais. Ça ne date pas d'hier, les problèmes de Blanquer avec l'éducation nationale. Tout le monde, tous les syndicats, parce que c'est en réalité...
Mais Michel, excuse-moi de t'interrompre, mais quel est le ministre qui n'a pas eu affaire avec les syndicats d'enseignants ou même son administration ?
Mais il faut dire, dans une situation très compliquée.
J'en connais un.
Dans une situation très compliquée.
Qui maintenant, dites-le.
C'est François Bayrou qui, pour ne pas avoir de problème avec les syndicats, co-digérait avec le SNESUP. Et c'était Mme Boya qui faisait la pluie et le beau temps. Comme ça, il a été tranquille, pas de grève.
Internet fini, parenthèse, Michel Cotta.
Ce que je veux dire, c'est que quand même, depuis longtemps, Blanquer est sous le feu des critiques de la part des syndicats.
Donc, sur le bac,
c'est vrai
les APB,
que donc, sa position est particulièrement fragilisée. Bon. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que quand on a effectivement des gens comme des enseignants qui souhaiteraient ne pas ouvrir l'école, et Catherine l'a très bien dit, des parents qui veulent au contraire l'ouvrir, dans une phase où il y a 400 000 contaminations par jour, ça pose un problème à n'importe qui. Voilà, alors c'est Blanquer qui prend, c'est lui qui fait ses excuses. Et c'est lui surtout, je vous rappelle que ça a révélé quand même le rôle, on parle de Véran, mais ça a révélé le rôle de Castex, parce que à qui les syndicats ont demandé d'aller discuter, c'est Castex. Et qu'est-ce qui a réussi finalement sa négociation, puisque tout le monde est sorti en étant pas trop contre, c'est Castex aussi. Je trouve que c'est sans doute important dans le rôle de Castex qu'on a tendance à minimiser ou à ramener au rôle d'intendant. Voilà, donc c'est pas une défense de Blanquer, mais tout de même, je ne voudrais pas être à sa place. Et c'est un peu facile quand on est assis sur des fauteuils.
Il faut raison garder.
Voilà. Mmh. C'est un peu facile pour nous de dire « Ah, finalement, peut-être qu'il aurait dû faire mieux ».
Oui, mais il y a quand même aussi le rôle du président de la République dans cette affaire, qui n'est pas négligeable. Ben oui, on a la même idée, Gérard. Mais, pardon,
les grands esprits se rencontrent.
Mais non, mais oui, parce que et la preuve que son rôle n'a pas été... finalement formidablement positif, c'est qu'il envoie qui ? Le pompier de service, le meilleur pompier de service qu'il ait à sa disposition à l'Élysée.
Brigitte Macron.
Ah mais ça, on y viendra. Bon, on va y en parler.
Alors, j'allais y venir.
Gérard Carrérou.
Comme j'avais la parole et que j'allais y venir, je vais donc prendre le train en marche. Mais je voudrais dire simplement,
Fais attention à la marche.
Ce qu'a dit Michel est juste. Je n'y m'attarde pas. Ce qu'avait dit Catherine était aussi et également très juste sur, effectivement, le crime de Blanquer, le crime absolu, eu égard à une certaine forme d'intelligentsia à l'université française et dans les milieux enseignants français, c'est d'avoir dénoncé, et depuis le début, sous des formes intelligentes, une forme de pénétration et de gangrène de l'islamo-gauchisme à l'université. Et ça, à Blanquer, je pense qu'on ne lui pardonnera jamais, dans certains milieux, d'avoir été comme ça.
C'est
et le président...
C'est qui on ne lui pardonnera jamais.
Ces milieux-là, parce que c'est le seul rempart, petit
donc
rempart.
Les enseignants...
À lui qu'on demande de faire des excuses, ce qui est le paradoxe absolu. Et le président, dans cette affaire-là, est encore dans le en même temps. Et comme l'a dit fort justement Charles, et j'allais évidemment venir à mon deuxième point, pourquoi Mme Macron est-elle intervenue dans le débat à ce moment ? Alors, il y avait bien sûr une opportunité très importante, il y avait les pièces jaunes, et je salue le rôle des pièces jaunes. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est allée chez RTL pour parler pendant une demi-heure. Elle est allée parce qu'il y avait une nécessité stratégique d'arrondir un petit peu la parole du président qui avait été marquée, qui infusait depuis une semaine sur l'histoire des emmerdeurs, l'emmerdé. Et à partir de là, qu'est-ce que c'est que Mme Macron dans la hiérarchie du pouvoir macronien ? C'est la femme intelligente, fine, modeste et en même temps qui, on sait qu'elle a un rôle d'influence et on sait qu'elle trouve
qui
tout le monde.
Elle a été prof.
Elle a été prof. Elle sait que les candidats sont tous très bien, dit-elle à l'élection. On sait que l'élection est terrible. Elle a des expressions bien étudiées et qui font mouche aujourd'hui. Et c'est son rôle, effectivement, a été celui d'apporter la dimension compassionnelle à un président qui s'était un petit peu embarqué à la va-vite dans une affaire qu'il était, bon, qui était partagée.
Elle a dit, il parle cash, Emmanuel Macron.
Oui, non, mais quand Gérard parle des pièces jaunes, la bonne occasion, mais c'est vrai que la première dame qui n'a pas de statut, grâce aux pièces jaunes, peut être interviewée chaque année à la télévision. C'est ce que faisait Bernadette Chirac, qui, grâce aux pièces jaunes, en 2001, a annoncé la candidature de Jacques Chirac pour 2002. Vous voyez, c'est elle qui a lancé sa candidature et qui lui a fait profiter de sa popularité, qui lui a beaucoup aidé. Bon, là, Mme Macron a pris la suite de Mme Chirac aux pièces jaunes.
Grâce à Mme Chirac qui l'a lui donné.
Il a lui donné, enfin, à l'époque où elle l'a prise, Mme Chirac n'était pas très bien, je pense que c'est plutôt Claude, mais enfin, il faut dire que c'est Bernadette qui l'a voulu.
C'est la famille, oui.
C'est la famille. Madame Macron est apparue l'autre jour. Écoutez, on se disait, mais chapeau l'artiste. Parce que d'abord, vous la voyez, on voit que le temps passe et n'a pas de prise sur elle. Le temps s'est arrêté. Elle était parfaite physiquement, intellectuellement. Et elle dit des choses, mais sensées. On a l'impression qu'il y a à côté du président quelqu'un qui est sensé, qui a du bon sens, qui n'essaie pas de jouer un rôle, bien que je suis sûre qu'elle en a un très fort, mais elle dit en aucune manière je n'essaie de l'influencer, de le convaincre ou de persuader. J'ai vu qu'il avait envie de se présenter, comme si elle ne le savait pas.
Mais...
Eh bien, il n'a pas pris sa décision, comme vous. Eh bien, voilà, je n'ai pas à intervenir. Voilà.
Alors, elle dit qu'elle... Que
C'est à peu près pas crédible, ça, pardon. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse sur la personnalité. Brigitte Macron, qui est tout à fait formidable. Quand elle dit « je ne suis pas au courant, je ne sais pas, je ne veux pas savoir ».
C'est une décision qui se prend toute seule.
C'est le côté le moins crédible des choses.
Mais ça fait partie de la comédie du pouvoir, ça.
Oui, tout à fait.
Oui, mais c'est bien fait.
Mais c'est bien fait.
Bah oui, mais c'est comme Bernadette qui parlait seule en disant « vous croyez que votre mari… » Oui, je pense. Vous pensez bien que… Voilà.
Mais soit dit en passant, d'ailleurs, sa parole a mis en extase un certain nombre de commentateurs. Qui l'ont montré d'ailleurs.
Mais ça fait du bien, Charles, d'admirer de temps en temps quelqu'un.
Et puis c'était chez Pascal Praud quand même. Pascal Praud.
Parce que manifestement, elle a adouci la phrase de son mari, président, emmerder les non-vaccinés. Et rappelez-vous qu'ici, samedi dernier, nous avions dit que de toute façon, sans contournement tactique d'éviter les angles morts comme l'immigration, comme la sécurité, comme le pouvoir d'achat dont on va parler dans quelques instants, évidemment, allait faire long feu, que c'était temporaire l'effet positif. Eh bien, nous y sommes. C'est temporaire et de toute façon, il a été rattrapé par ce côté de diviseur, cliveur.
Je veux bien qu'il soit rattrapé, mais enfin, un petit mot sur les sondages. Hein. C'est vrai qu'on ne comprend plus rien aux sondages. Ils divergent systématiquement, puisque une fois Macron à 23, une fois il est à 27.
Oui, mais bon, c'est la première fois.
Mais
c'est
C'est pas vrai.
Non, mais d'accord.
23, ça fait longtemps.
C'est la première fois qu'il est depuis des mois.
C'est la première fois qu'au premier tour, son score s'altère. C'est la première fois qu'il y a eu des décrochages. Ils ne sont pas unanimes, de toute façon.
Bon, mais enfin,
d'accord, mais il reste qu'on parle de Emmanuel Macron comme s'il était condamné. Quand même, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Alors, il le sera peut-être une fois qu'il sera candidat. Ça, à mon avis, il y aura quand même une courbe quand il sera officiellement candidat. Mais enfin,
ce qui est arrivé à tous les
chaque fois, il y a un trou de 3-4
enfin,
points.
Il est quand même largement en tête pour le moment, avec une popularité qui n'est jamais égalée.
Non, mais rassure-toi, il est toujours en tête.
Et il ne faut pas l'oublier. Oui. Voilà, on revient avec les grandes voix dans un petit instant. Restez avec nous, c'est Europe 1.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. C'est le jour J, nous sommes le 15 janvier. Aujourd'hui, le pass vaccinal est désactivé à tous ceux qui n'ont pas un schéma de vaccination complète. Quelques chiffres aussi avant de vous donner la parole, les grandes voix. 329 000 cas confirmés hier, 2828 de taux d'incidence. Les passages en urgence en réanimation sont en baisse. On a 78% de la population qui a un schéma vaccinal complet. À peu près 80 qui ont reçu une première dose. L'Institut Pasteur est optimiste, ce n'est pas toujours le cas. Sur les projections d'Omicron pour fin janvier, que se passe-t-il ? Est-ce qu'on est lentement en train de dériver vers une immunité collective de façon à ne pas prévoir cette quatrième dose qu'on, d'une certaine façon, craignait un peu, Gérard Carrérou ?
Moi, je me fie à ceux qui savent, c'est-à-dire, j'ai écouté par exemple le professeur Éric Combe, ou j'ai écouté Mégarban, etc. Ouais. Un certain nombre de médecins pour lesquels on a, au fil des semaines, on a acquis une certaine,
confiance
dans leurs paroles. Et il semblerait que nous soyons effectivement à ce moment, et tout le monde doit le souhaiter, à ce moment où l'Omicron ayant tout envahi, si j'ose dire, partout, oui, étant devenu majoritaire partout, il y a une forme donc de ce qu'on appelle, d'accoutumance, mais une
immunité.
Sorte d'immunité générale qui s'instaure, et tant mieux si c'est le cas. Et si, alors c'est là que, je reviens à la politique, après avoir dit qu'effectivement Macron a tout misé là-dessus, pour le président de la République, sa stratégie sur laquelle Michel n'est pas d'accord, je pense que maintenant, il va se demander à quel moment exactement, dans les 3 mois qui viennent, il va falloir ouvrir les vannes. Parce qu'il a très bien compris, les études d'opinion le montrent, et les manifs, etc., le montrent, l'opinion a maintenant pris la mesure de ce qu'était Omicron. Et elle n'a plus la peur, panique qu'elle a eue dans les premiers temps, et elle se dit maintenant, attention, on ne va pas nous imposer encore ou une quatrième vaccination, oui, ou d'autres mesures. Oui. Donc il va y avoir le moment stratégique qui va être évidemment fondamental pour la campagne, de savoir à quel moment on dit « Maintenant, mes chers compatriotes, il faut nous réaccoutumer à la vie comme avant, en grande partie ». Et on l'a vu à Paris, on a vu quand même la décision du tribunal administratif pour Paris. Il y a d'autres départements. Plus de masques, alors que le masque avait été rétabli. Donc il y a le moment stratégique où on ouvre ou on ferme.
Oui, mais ça, juste un mot, Charles Villeneuve. C'est ce qui se passe en Angleterre avec Omicron. Ils sont en train de sortir la tête de l'eau aussi.
Et en Espagne aussi.
Oui, Michel
Cotard. Puis on voit pas ce qu'on peut faire quand il y a 400 000 contamination par jour. C'est vrai que ça touche 5 millions de personnes, donc avec les cas contacts, ça en couche 50 millions. Bon, mais on s'arrête, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on laisse un peu filer les choses, à l'exception du pass sanitaire qui devient vaccinal.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur Omicron, les grandes voix. Je commence à bafouiller aussi. Mais c'est les masques aussi, on est tous masqués en studio.
C'est vrai que c'est très gênant de parler.
On parle de la guerre des droites dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Pierre de Villeneuve.
Autour de moi, et vous êtes de plus en plus nombreux à les écouter, Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Nouveau déplacement de Valérie Pécresse. La candidate de la droite est à Samos, dans un camp de réfugiés en Grèce. Hier, elle était à Athènes, où elle a défendu l'Arménie, toujours en conflit avec l'Azerbaïdjan. Valérie Pécresse qui a connu au tout début de la semaine une fuite en avant de Guillaume Pelletier, rallié à Éric Zemmour, ce qui a beaucoup fait rire Marine Le Pen, s'amusant des changements réguliers de crèmerie de l'ancien LR, passé par Dupont-Aignan ou encore le FN. Mais au-delà du cas unique Pelletier, n'est-ce pas une partie de la droite, considérant que Valérie Pécresse n'est pas assez droitière, qui risque de suivre ce même mouvement, Charles Villeneuve ?
Moi, je ne le crois pas. Si vous voulez, Pelletier, d'abord, ce n'est pas Ciotti. En plus, sa défection était prévisible. Ça faisait au moins 5 mois, 6 mois qu'il avait perdu sa place de numéro 2 et qu'il était en rupture de banc. Donc, c'était assez prévisible. En plus, il ne pèse pas le poids qu'il pense peser. D'ailleurs, vous savez très bien ce qu'il a fait, puisque Christian Jacob porte plainte devant la CNIL, c'est-à-dire ce qui régule sur le plan informatique les listes, pas seulement des candidats, mais surtout des membres des républicains du parti. Il a envoyé un courrier à tout le monde. Donc, et puis, je voudrais, si vous voulez, c'est quand même une prise de guerre à relativiser et qui a toujours lâché ses champions. Il ne faut pas l'oublier, ça. Jean-Marie Le Pen, Laurent Wauquiez, Xavier Bellamy. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand il avait lâché ce que j'appelle ses champions, Éric Zemmour l'avait alors qualifié Pelletier de traite de comédie. Bon, on a oublié tout ça, évidemment, les temps changent. Mais voilà.
Gérard Carreau.
Écoutez, moi, je voudrais faire une réflexion qui est une réflexion globale sur les trois candidats ou candidates de la droite. Et je vais le faire en vous chantant. Tout à l'heure, tu nous racontais une petite histoire intéressante sur le pharmacien, là. Moi, je vais vous chanter une petite chanson, parce que je vais vous très courte.
Comme Stromae, alors.
La petite chanson, c'est « Three blind mice, three blind mice, see how they run ». Les trois petites souris aveugles. Tous les gosses américains ou anglo-saxons la connaissent. Eh bien, j'ai l'impression que ces trois candidats, c'est les trois petites souris aveugles qui courent dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'elles ne voient pas le réel. Et le réel, c'est que tous les sondages publiés ces derniers mois donne une addition des trois candidates, et éventuellement, si on y rajoute un ou deux candidats subalternes, style Dupont-Aignan, on arrive autour de 50, entre 45 et 50 %. Dans toutes les démocraties, quand on a un capital de 45 à 50 %, on se dit, ça y est, on va gagner. Or, tout le monde, en même temps, pronostique que la droite va... Enfin, tout le monde, non, mais beaucoup de gens pensent que la droite va perdre. Pourquoi ? Malgré cette addition somptueuse de 45 % total. Eh bien, parce que les trois petites souris sont aveugles et qu'elles continuent à agir et à voir le barrage que Mitterrand avait créé autour du Front National, c'est-à-dire on ne peut pas s'allier avec... Et du coup, il y a à la fois, elles font une course intéressante pour certains d'entre elles ou d'entre eux, en donnant un certain nombre de propositions, mais elles ne voient pas le fait principal, qui est qu'elles ne font aucun pas, les trois candidatures ne font aucun pas vers une possibilité d'alliance d'une manière ou d'une autre, ou de pacte électoral à la manière de celui des communistes et des socialistes dans les années 70.
Les boucliers sont ouverts, c'est ce que je disais.
Voilà. Donc,
Mitterrand connaissait ses classiques. Que dit-on de la droite
ans, ça marche.
Que c'est la plus bête du monde, la droite française.
Catherine.
Oui, mais c'est vrai que la droite est majoritaire. Il y a trois droites. Il faudrait que René Raymond refasse ses analyses. Mais ce qui est la seule question que se pose la droite, c'est, bon, maintenant on est à peu près sûr que le président sera candidat et même sera qualifié pour le premier tour, c'est qui va arriver derrière lui. Si c'est Madame Pécresse, elle a des chances de l'emporter parce qu'une partie des gens de la droite, et même y compris celle de Zemmour, y compris celle de Madame Le Pen, ne voudra pas encore donner une nouvelle fois des chances à Emmanuel Macron. Si c'est Madame Le Pen, eh bien là, une partie de la droite LR votera pour Macron. On le sait. Elle préférera ça.
Oui, c'est pour ça pas... que...
Et si c'est Zemmour, c'est une option qui est envisagée dans son camp, mais je vois bien qu'il n'est pas encore tout à fait envisagé dans les questions à droite. Parce que je pense qu'en ce moment, moi je le sens comme ça dans les conversations, j'ai peut-être complètement tort, il y a une petite désaffection. Oui. Et surtout, vous voyez, quand on parle de Guillaume Pelletier, chez les LR, on dit mais bon débarras.
Oui,
et quand même qu'il est aujourd'hui comme allié un peu visible, à la fois Patrick Buisson, qui n'est pas un attrape-électeur vivant, et le député, l'ex-député de Vendée,
Philippe de Villiers.
Oui, merci de me rappeler son nom. C'est quand même pas non plus des aspirateurs à voix, tout ça.
Aspirateurs à voix.
Moi, je suis en désaccord fondamental avec Gérard.
Ça me fait plaisir, en général.
C'est ça qui
est bien. Je pense qu'il y a une vraie différence entre une droite dite de gouvernement et une droite qui ne l'est pas ou qui ne cherche même pas tellement à l'être. Je veux dire qu'entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen, il y a quand même un abîme, parce qu'il y a la retraite à 60 ans pour Marine Le Pen, une sorte de populisme pour elle, et il n'y a pas ça pour Valérie Pécresse. Et pourquoi est-ce qu'on se dit que Valérie Pécresse a des chances, si elle arrive en numéro 2, de pouvoir avoir un débat, en tout cas, intéressant avec le président de la République? C'est parce que, quand même, c'est une tradition, un courant politique qui s'inscrit près du pouvoir et avec le pouvoir. Eh bien, moi, je ne crois pas qu'il y ait, de toute façon pour les gens, une alliance possible entre Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse.
Michel.
Je pense que Valérie Pécresse, dans ce cas-là, aurait ou une partie de ses électeurs qui s'évaderaient vers Macron, ou une partie des électeurs, effectivement, qui iraient sur Marine Le Pen ou sur Zemmour.
Je comprends, la gauche a tout intérêt à ce que le barrage mitterrandien continue et qu'aucune porosité
ne se fasse. Je veux rappeler à nos auditeurs
le fossé extraordinaire qui existait dans la France des années 70-80 entre un parti communiste encore stalinien qui cautionnait par toutes ses initiatives ce qui se passait en URSS et un parti socialiste qui était en train d'essayer de se renouveler, de sortir. Et quand ils ont fait les pactes électoraux, est-ce que ça voulait dire qu'ils allaient fusionner ensemble? Pas du tout. Ils s'étaient dit, et c'est là l'astuce géniale de François Mitterrand, c'est de dire on n'arrivera jamais au pouvoir si nos électorats ne se rassemblent pas au deuxième tour. Les électorats. Eh bien, il a réussi son pari. Et moi, je dis que la droite va disparaître. Parce que si la droite de Pécresse, par exemple, n'est pas au deuxième tour, eh bien, il n'y aura plus de parti des Républicains. C'est donc le dernier acte pour la droite. Ou elle comprend ce que je viens d'expliquer, ou elle ne le comprend pas.
Valérie
Pécresse le commence, ce serait d'une certaine façon... Perdre son âme et perdre l'argument moral.
Il vaut mieux perdre son élection que perdre son âme.
On connaît le refrain. Et d'ailleurs,
ces trois droites, à l'heure actuelle, qu'on vient de décrire longuement, tous les leaders de ces trois droites sont à la recherche de leur deuxième souffle. Et ça, c'est un fait à l'heure actuelle.
Absolument. Eh bien, on va parler maintenant de la gauche dans quelques instants. C'est Europe 1, ce sont les grandes voix. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. À tout.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Et puisqu'on a beaucoup parlé de Valérie Pécresse, sachez qu'elle sera l'invitée d'Europe 1 à 8h13 ce lundi dans la matinale avec Sonia Mabrouk. Nous sommes avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta à gauche, celui qui nous faisait, il n'y a encore pas si longtemps que ça, une nouvelle version du téléphone pleure, serait sur le point de raccrocher. Arnaud Montebourg pourrait céder face à Christiane Taubira. Pourquoi elle? Parce que c'est elle finalement qui pourrait rallier le plus de voix à la primaire populaire. Mais alors, qui représente la gauche aujourd'hui quand on sait que Mélenchon et Jadot n'iront pas à cette primaire? La gauche dans son ensemble comptabilise 25%. On va où comme ça, à gauche, et Michel Cotta?
Alors, je reprendrai l'histoire des petites souris, peut-être.
Ah, d'accord.
Là, alors, il y a encore plus que trois petites souris.
Ça va faire jurisprudence.
Il y a encore plus que trois petites souris. Alors, donc, Christiane Taubira. Pourquoi Christiane Taubira? Et c'est vrai que moi, je faisais partie des gens qui me disaient, mais enfin, elle a quand même un peu disparu de l'univers politique. Pourquoi est-ce que d'un coup... Eh bien, parce qu'elle représente... J'ai interrogé pas mal de jeunes. Elle représente d'abord l'ennemi numéro un de la droite. Et... Catherine ne va pas dire le contraire. Elle représente le combat pour la lutte contre l'esclavage. Elle représente le débat sur le mariage gay qu'elle a mené. C'est un débat politique qu'elle a beaucoup mené. Donc finalement, et en plus, une femme noire. Donc on a l'impression que pour une grande partie de la gauche, face à cette espèce de désordre. Anne Hidalgo, plus les uns, les autres, Jadot et Mélenchon, qui ne veulent pas aller à la primaire, qui n'existe pas. Ouais. La primaire, je veux dire que l'électorat de la primaire, tel que la demande Christiane Taubira, c'est elle qui l'a fait, l'électorat de la primaire. Donc elle est sûre, et de toute façon, presque personne d'autre qu'elle ne se présente, et Arnaud Montebourg se désiste pour elle. Donc
c'est pas encore dit, mais c'est pas
des souris. Ouais. Enfin, de toute façon, qu'il se désiste ou pas. Oui. Il a 0,5, il n'a pas d'argent, il n'a pas de parrainage. Enfin, bon, il n'a pas de parrainage, on pourrait beaucoup parler de ce que représente quand même Arnaud Montebourg. C'est-à-dire pas grand-chose. Bon, il y a en plus le Parti communiste, il y a en plus des différences majeures entre ce que pense par exemple le Parti communiste sur le nucléaire et ce que pense naturellement Jadot. Bon, donc Christiane Taubira peut avoir une espèce de répercussion, elle peut avoir... Mais enfin, elle avait dit « je ne serai pas une candidate de plus », elle sera une candidate de plus. Donc une souris de plus.
Catherine Ney.
Oui, bon, mais je veux dire que quand on pense à elle, on se dit dans le fond, vous savez, aujourd'hui, pour être candidat à la présidentielle, ça veut dire quelque chose. Parce que il faut être aveuglé par sa propre personne. Il faut avoir être entêté à l'idée de son destin, s'offrir, avoir une vision de soi-même surdimensionnée. Parce qu'admettons qu'elle soit dans la course, combien peut-elle recueillir avec tous les atouts que Michel a énumérés? 8-10%. Ça serait formidable par rapport à ces 2% d'il y a en 2002 où elle a concouru à faire battre Jospin. Mais elle en fait quoi? Elle en fait quoi? Ça, bon, et je pense que sa candidature, qui est quelque chose, va plutôt concourir à défaire encore plus la gauche, qui est déjà en miettes.
Gérard Carriaou.
Moi, je pense que Taubira va se présenter d'ici 10 minutes, puisque c'est dans 10 minutes qu'elle a donné rendez-vous à nos confrères à Lyon. Je pense qu'elle va dire qu'elle est candidate à la primaire de la gauche. Les primaires, c'est-à-dire une espèce de bricolage tout ça étant des apparences.
Mais
elle va gagner dans cette bataille donc, de cette fausse primaire, mais qui aura lieu quand même d'une certaine manière. Elle va sûrement arriver en tête. Elle sera une candidate de plus. Et là où, si vous voulez, ça peut être quelque chose, certains diront, la version optimiste, c'est de dire, bon, c'est un bon orateur, c'est quelqu'un qui donnera un peu de peps à la campagne de la gauche. Effectivement, quand on voit dans quel état, dans quel marécage se trouve la campagne de la gauche avec Madame Hidalgo, etc., on se dit qu'effectivement, elle ne peut, de ce point de vue, au moins de ce point de vue de la parole, qu'élever le débat. Mais ce que je redoute le plus, c'est qu'elle soit une porte-parole. Vous avez très bien dit, Michel, tu as très bien dit, les cases qu'elle va cocher. Et elle va cocher notamment celles du racialisme et du wokisme et de tout ce qui est cette nouvelle apparition de la gauche qui est épouvantable aux États-Unis, et croyez de quoi je parle, qui est en train de gangréner et même d'empêcher la présidence de Biden parce que ce parti démocrate américain est gangréné par ça. Eh bien, elle est ça en France. Et si elle fait ne serait-ce que 5% ou 7%, c'est désastreux ne serait-ce que pour ça.
Charles Villeneuve.
Oui, alors moi, ce qui m'intrigue le plus, tout a été dit par mes camarades sur Taubira, et je ne suis pas un spécialiste de la biographie de Taubira, c'est que l'électorat de gauche n'a pas disparu, il est important. Il se répartit autrement. Il faut quand même se dire qu'il existe un maillage impressionnant, important, d'élus locaux de gauche. Quand vous regardez la carte municipale qui tient une grande partie des grandes villes, c'est la gauche, c'est l'électorat de gauche. Oui. Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lille, Strasbourg, c'est énorme. La gauche souffre de 3 faiblesses, manifestement, qui fait d'abord qu'elle n'a pas de leader, comme l'a été François Mitterrand ou comme d'autres, dans cette République française, ou d'autres, évidemment, leaders de droite, comme Jacques Chirac, comme De Gaulle, etc., etc. Et il y a un émiettement, simplement, des partis, pas de l'électorat, des partis de gauche, incapables de construire une démarche commune. Ils sont incapables. Divergences de fond importantes sur le communautarisme, pas de programme commun, et puis l'absence de leader incontesté.
Oui,
mais l'électorat de gauche n'est pas mort.
Ce qu'aurait pu être Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon était le seul à pouvoir, à un moment donné, être un rassembleur, eh bien, c'est un diviseur.
C'est un diviseur et il n'a pas ses signatures.
Catherine Ney.
Puisqu'on parle du déclin de la droite de gouvernement, si jamais, justement, la droite perd, et donc disparition, à peu près, quand même, de ce qui reste du Parti gaulliste, on peut dire la même chose du Parti socialiste. Parce que si, après cette élection, Anne Hidalgo a fait la preuve qu'elle avait la moitié de voix de moins qu'à la dernière élection présidentielle, c'est une catastrophe pour le Parti socialiste, et notamment pour les élus locaux qui, quand même, restent importants et à droite et à gauche. Donc on a le même phénomène à droite et à gauche du risque de disparition et du Parti socialiste et de LR au détriment d'un...
De nouvelles forces politiques
On ne voit pas arriver cette force politique-là. En tout cas, s'ils ont disparu, ils restent très importants localement et ils disparaîtront nationalement. C'est une situation très, très difficile.
Oui,
très
compliquée. Les radicaux de la Troisième République ont connu un peu cette situation. Oui. Ils étaient extraordinairement implantés dans les départements de la France et dans les villes de la France. Et puis, quand est arrivé le choc, effectivement, du gaullisme, tout ça a sauté. Et on a dit, au moment de l'élection de Macron, il y a 5 ans, on a dit c'est un début de recomposition. Effectivement, ce que tu dis est juste sur la gauche aussi bien que sur la droite.
Mmh. Oui, mais en entendant Charles, ce qui est criant, c'est que tous ces maires, qui sont des maires de villes très importantes en France, on ne les entend pas. On ne les entend pas du tout.
Oh, quand on les entend, quand on entend les maires écologistes,
on regrette
de les entendre.
Mais il y en a une qui est formidable, par exemple, Carole Delga, qui est la présidente de la région d'Occitanie. Eh bien, cette femme, elle est formidable et on ne l'entend jamais dans le national.
Mais elle soutient. Elle soutient Anne Hidalgo et elle se tait parce qu'elle voit que c'est un désastre aussi. Parce que vous venez de parler de Mitterrand. Vous venez de parler de Mitterrand qui a su très bien faire venir les communistes pour mieux les enterrer. Enfin, c'était vraiment un grand stratège, mais il avait de la bouteille, de l'expérience qui avait commencé depuis la 4e République. Il avait tout connu. Et donc, pour qui est encore qui a la nostalgie de Mitterrand ? Mais c'est une douleur de se voir représenter il y a 5 ans par Benoît Hamon, qui a fini à 6%, et encore plus par Anne Hidalgo. Mais c'est terrible, parce qu'elle est très mauvaise. Je veux dire, la différence, dans le fond, et ce qui est terrible pour elle, c'est que si Mme Taubira arrive, mais elle est bonne. Comme dit François Hollande dans son livre, elle est lumineuse, elle a du bagou, tout ce que n'a pas Madame Hidalgo. Mais là, le Parti Socialiste a honte, c'est d'avoir donné l'investiture à Madame Hidalgo. Quand Bernard Cazeneuve a dit qu'elle était formidable, qu'il lui a ciré les pompes, c'était de la langue de bois, il n'en pensait rien. Vous voyez, le problème du PS, c'est le leadership.
Merci à vous les grandes voix, merci Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. C'est à vous mon cher Laurent Mariotte, bonjour.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix. Bonjour. Tout le monde va bien ?
Mais oui,
ah, oui, bonjour. Bah oui, alors c'est vrai, il fait froid, alors on va se réchauffer avec de belles cuissons en croûte, croûte de sel, de pain d'argile, on va emmailloter, vous allez entendre, et puis Michel Jonas nous rejoint à table vers 11h30. À tout de suite.
À tout de suite.